Bonjour et bienvenue! Vous écoutez Simple et Cité, le podcast pour une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui revient souvent lorsque l'on discute minimalisme, lorsqu'on parle de vivre avec moins, de simplifier ses objets, etc. C'est quelle valeur accorde-t-on aux objets dans un mode de vie plus simple? Lorsque j'étais au Japon, j'ai été fascinée par la manière dont les objets sont utilisés pour sublimer les actions quotidiennes en toute simplicité. Par exemple, la nourriture est servie dans de jolis plats qui sont à la fois dépareillés mais harmonieux, avec la nourriture qui est présentée de manière très élaborée sur les plats, etc. Ce qui donne une expérience en fait du repas qui est vraiment extraordinaire, mais avec pas grand chose, parce que c'est pas forcément de la vaisselle onéreuse, et on retrouve ce souci de la présentation dans une certaine mesure, même dans les restaurants qui sont populaires et bon marché. Un autre exemple de manière de voir les objets qui m'a fascinée, c'est ce qu'on appelle le tokonoma. Donc le tokonoma, c'est dans les maisons traditionnelles japonaises, un petit endroit, une petite alcôve en fait, une petite niche, où on va mettre en valeur des objets de saison. Donc par exemple, on va mettre un arrangement floral de type ikebana, donc avec une seule fleur qui est vraiment très joliment mise en valeur. On va suspendre une illustration ou une calligraphie qui est en lien avec la saison en cours. Et en général, ce tokonoma reste très simple et très épuré, mais tout en mettant en valeur quelques objets qui rappellent l'impermanence et la beauté de la saison. Donc ça, ce ne sont que deux exemples, mais tout au fil de mon année au Japon, malgré le fait que Tokyo aujourd'hui c'est une société de consommation tout comme Paris, Londres, New York et le reste de la société moderne, hein, malgré tout, j'ai ressenti une impression de profond respect des objets, tout en restant dans une certaine simplicité dans le nombre des objets et la manière dont ces objets sont conçus au Japon. Et du coup, je me suis mise à étudier un petit peu cet aspect de la culture japonaise dans le cadre de la simplicité urbaine, et j'ai compris la nature du respect que portent les Japonais aux objets. Les consultantes en rangement comme Marie Kondo ou Hideko Yamashita, qui sont assez connues maintenant, dont je vous ai déjà parlé sur ce podcast, dans leurs livres respectifs, parle d'un processus dans le tri des choses qui nous est assez étranger en tant que lecteur et lectrice occidentale. C'est par exemple de prendre l'objet entre les mains, de sentir le lien qui nous unit, de remercier l'objet avant de s'en séparer, tout ce genre de petits rituels qu'on retrouve dans ces livres de rangement à la japonaise. Et en fait c'est très significatif dans cette culture-là. Le Shinto, qui est une religion japonaise, voit le monde comme empli de 8 millions de dieux. Donc le chiffre 8, enfin 8 millions, représente une immensité, une forme d'infinité en fait. Et comme l'explique Ken Mogi dans le petit livre de l'Ikigai, dont je vous ai déjà parlé aussi, les déités peuvent se trouver dans toute petite chose, qu'elle soit vivante ou non. Et d'ailleurs, la croyance veut que si on néglige ces objets dans la maison, ils finissent par se transformer en yokai, en esprit, pour montrer leur mécontentement d'avoir été ainsi délaissés. Ce qui résulte de toutes ces croyances, même si aujourd'hui c'est de l'ordre du folklore et que je pense pas que les Japonais croient vraiment qu'il y a des fantômes dans leurs objets, hein, mais ce qui résulte de cette tradition culturelle, on va dire, c'est un profond respect que les Japonais entretiennent avec les objets, en tout cas traditionnellement. Alors évidemment que j'ai vu des chambres étudiantes en désordre au Japon aussi, hein, mais je vous en parle non pas pour vous inciter à penser qu'il y a un petit dieu dans votre parapluie ou dans votre tasse à café, hein, mais pour aborder cette notion de respect pour les objets qui en résultent, que je trouve très sain en fait, comme type de rapport à l'objet. Je trouve que c'est un rapport sain à l'objet car il s'agit d'honorer les objets qui nous entourent, par leur utilité ou par leur esthétique. Il s'agit de ressentir de la gratitude et de l'appréciation pour ce qu'on possède, qui est un élément que je pense indispensable pour mener une vie plus simple. Parce que finalement, c'est souvent le sentiment de manque et d'insatisfaction qui nous pousse à consommer au-delà de nos besoins. Et en même temps, ça ne devient pas pour autant un attachement inadapté aux objets, puisque, comme le pointe Marie Kondo, il n'y a aucun mal à remercier un objet puis à s'en séparer si on n'en a plus l'utilité. Donc on n'a pas d'attachement un peu bizarre à l'objet comme on peut en avoir parfois dans la société consumériste où on a mis vraiment des besoins humains ou des aspirations ou une partie de notre identité dans les objets. C'est pas comme ça au Japon, en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai perçu. Donc c'est de cette notion de respect de l'objet dont je vais vous parler plus en détail aujourd'hui, ou autrement dit, la valeur, une valeur saine que l'on confère à nos possessions dans une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Il y a une certaine contradiction apparente quand on y pense entre le fait de moins acheter et moins donner d'énergie et de temps à acheter et entretenir les objets, d'un côté, et de l'autre côté, le fait d'accorder davantage de valeur à ce qu'on a autour de nous. Si on passe moins de temps à acheter et à entretenir une vaste collection d'objets parce qu'on est plus minimaliste, ça veut dire quoi accorder de la valeur à ce qu'on possède ? Alors déjà pour moi, la différence fondamentale, c'est que consacrer de l'énergie à planifier ses achats et à acheter des choses, c'est accorder de la valeur à l'acquisition de nouveaux objets, et non à l'objet en lui-même, ce qui n'est pas la même chose. Pour moi, le consumérisme, ce n'est pas une société matérialiste, c'est une société d'acquisition. Et même au contraire, vu qu'on se concentre en permanence sur le prochain achat, on risque d'avoir davantage tendance à négliger les objets qu'on possède déjà. On va les accumuler, on va les laisser se détériorer, on va les oublier dans un coin. Évidemment, c'est pas systématique, c'est pas tous les objets. Mais disons que ce que j'entends par là, c'est que notre société actuelle est une société qui nous pousse à nous concentrer sur les futurs objets et non pas sur les objets actuels. Du coup, non, c'est pas forcément contradictoire de vouloir mener une vie plus simple et de vouloir accorder davantage de valeur aux objets qui font déjà partie de notre vie. Dans ma vision d'une vie plus simple, un rapport sain à l'objet consiste non pas à porter attention sur l'acquisition d'objets futurs, mais sur ce que l'on possède déjà. Et ça rejoint aussi la notion de tri et la notion d'en avoir moins, parce qu'on ne peut pas apprécier, entretenir et offrir une place de choix à nos objets si on en possède trop. Du coup, au lieu d'accumuler le bazar et de toujours se tourner vers la prochaine nouveauté, il s'agit plutôt de trier pour ne conserver que l'essentiel. Et ensuite, une fois qu'on a cet essentiel dans notre vie, l'apprécier, l'entretenir et le respecter. Respecter les objets qui restent. Bien sûr, même dans une vie plus simple, on est amené à dépenser son argent et à faire l'acquisition de nouveaux objets. Mener une vie plus simple ou vivre de manière un peu plus minimaliste ne veut pas dire qu'on va complètement arrêter de faire l'acquisition de nouveaux objets. Mais ça ne devient pas une fin en soi. C'est-à-dire que dans une société consumériste, bien souvent, on achète des objets non pas pour leur utilité et pour ensuite les apprécier et les respecter pendant les années à venir pour l'utilité qu'ils nous apportent, mais bien souvent on achète des objets pour des raisons émotionnelles qui n'ont rien à voir avec l'objet lui-même. Et ça, c'est le résultat de décennies de marketing qui nous ont fait croire que les objets, qu'aller acheter quelque chose pouvait nous régler nos émotions en fait, pouvait nous apaiser nos émotions. On a fini par associer l'acquisition de nouveaux objets avec le bonheur, la valeur sociale, l'acceptation, voire avec notre identité en fait. Pour moi, un rapport plus sain à l'objet et à l'acquisition de nouveaux objets, c'est d'apprendre à faire la part des choses entre cette promesse marketing et la réalité. Un objet peut apporter beaucoup de choses. De la jolie vaisselle rend le dîner plus agréable, un bon livre nous cultive et nous distrait, un plaid nous réchauffe au cœur de l'hiver, mais un objet ne comble pas les besoins que la pub promet pourtant de combler. Un objet en soi ne rend pas heureux, ça n'aide pas à être aimé, ça ne console pas la tristesse, ça n'aide pas à s'intégrer ou à être accepté dans la société. Ce sont d'autres choses qui permettent tout ça, hein, à travers nos actions, nos attitudes, etc. Mais c'est pas les objets. Donc, on a déjà abordé la question du rapport entre les objets et les besoins humains dans l'émission numéro 5 de Simplicité, que je vous invite à réécouter ou à écouter si le sujet vous intéresse. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le rapport entre les objets, et l'achat en l'occurrence d'objets, et les émotions à l'heure du consumérisme dans une émission future. Mais pour le sujet d'aujourd'hui, le message que j'espère faire passer, c'est qu'il est possible de restaurer un rapport sain à l'objet et à l'achat de nouveaux objets dans un mode de vie plus simple. On peut tout à fait prendre plaisir à planifier l'acquisition d'un nouvel objet, il n'y a pas de mal à ça, mais en restant parfaitement conscient de ce que l'objet va réellement pouvoir nous apporter dans notre vie, et ensuite en cultivant l'appréciation pour ce que cet objet nous apporte une fois acquis. Et pas juste pendant 2 semaines, quoi. C'est-à-dire vraiment profiter de cet objet et apprécier cet objet pendant des années, vous voyez ce que je veux dire. Quelque part, il s'agit de remettre l'objet à sa juste place. Mais que signifie mettre l'objet à sa juste place ? C'est quoi la juste place d'un objet dans notre vie ? Alors, à chacun sa définition de la juste place. Puisque la place que vous souhaitez accorder aux objets dans votre vie dépend de vos valeurs, vos priorités et vos préférences. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous poser cette question. La question de quelle place avez-vous envie de donner à vos objets dans votre vie actuelle, dans un mode de vie peut-être plus simple. Par exemple, il n'y a aucun problème à avoir des collections, mais quelle place avez-vous envie d'accorder à une collection d'objets que vous entretenez, par exemple? Alors, pour vous donner un petit peu plus de concret dans tout ça, voilà ce que signifie pour moi remettre l'objet à sa juste place. Pour moi, ça signifie reconnaître le travail et les ressources utilisées pour fabriquer cet objet. Et du coup, reconnaître aussi un juste prix à cet objet. Pour moi, c'est aussi en prendre soin, le réparer, profiter de l'objet. C'est-à-dire qu'il fasse vraiment partie de mon quotidien, qu'il ne soit pas entassé dans une cave quelque part. Ça signifie aussi apprendre à cultiver la gratitude pour avoir la chance d'être en possession de cet objet et de manière plus générale, une gratitude pour mon confort matériel que j'ai la chance d'avoir. Et finalement, être contente de pouvoir utiliser ces objets tout le long de leur durée de vie et pas simplement pendant les jours qui suivent l'achat avant de passer à autre chose. Et de vraiment me rappeler à moi-même que bah, cet objet que j'utilise, cette tasse que je suis présentement en train d'utiliser pour boire mon thé, eh bien, elle a été pensée par un designer, elle a été confectionnée par un artisan, elle a été vendue par un commerçant et aujourd'hui j'ai la chance de l'avoir sur mon bureau pour pouvoir boire mon thé et c'est quand même assez extraordinaire. Ensuite, autre chose qui appartient à la juste place de l'objet dans ma vie à moi personnellement, hein, c'est d'avoir des objets pour leur utilité à eux, pour ce qu'ils m'apportent réellement en tant que ces objets-là, et non pas comme une représentation de besoins émotionnels. Donc ma tasse de thé, elle est jolie, elle me plaît, j'en ai choisi une qui est toute belle et ça me fait plaisir de boire mon thé dedans, mais ce n'est rien d'autre qu'une tasse de thé qui me sert de récipient à mon thé pour passer une bonne après-midi, pour profiter de mon travail de manière un petit peu plus agréable, etc., pour me réchauffer lors de longues soirées d'hiver. Mais par contre, cette tasse de thé ne va pas être une extension de mon identité, ne va pas être une marque d'appartenance à une certaine classe sociale, par exemple, ou un signe d'acceptation dans un certain club ou un certain groupe ou je ne sais quoi. Voilà, cette tasse de thé ne remplira pas ces besoins-là. Ensuite, autre chose qui me paraît important, c'est de choisir les objets en fonction de mes besoins internes. C'est-à-dire que les objets que je choisis d'accueillir et de garder dans ma vie servent ma vie à moi et pas l'inverse. Donc ce sont les objets qui sont à mon service, mais qui ne deviennent pas mes maîtres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour correspondre aux standards des autres, et ils ne sont pas là pour... Je ne vais pas organiser ma maison en fonction de mes objets. Je vais organiser ma maison en fonction de mes besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je vais acheter ce qui me plaît, ce qui me convient, ce qui correspond à mon style de vie, à mes goûts, etc., à mes besoins. Je ne vais pas acheter ce que tel ou tel magazine me dit qu'il faut que j'achète si je veux être une femme moderne. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, un autre élément qui est important dans ma définition de la juste place des objets, c'est de ne pas accorder trop d'importance aux objets pour autant, dans le sens où c'est du matériel. Donc oui, ça sert à se simplifier la vie, ça sert à passer de bons moments, etc. Et c'est important de cultiver de l'appréciation, etc. Mais ce n'est qu'un moyen, comme l'argent. Donc si tel objet est perdu ou cassé, ce n'est pas si grave finalement, j'en trouverai un autre qui remplira le même besoin. Il m'a été bien utile, j'en ai pris bien soin, il a servi son office, mais c'est pas la mort si je le perds. Et c'est là qu'on rejoint cette notion japonaise de remercier l'objet avant de s'en séparer. C'est-à-dire que c'est pas du tout contradictoire de ressentir de la gratitude et de prendre plaisir à utiliser les objets qu'on possède, d'un côté, mais de pas non plus avoir un effondrement soudain émotionnel parce qu'on en a perdu un, parce qu'on en a cassé un ou parce qu'on s'en est fait piquer un, quoi. C'est juste du matériel, c'est pas très grave. C'est pas aussi important que les relations humaines, par exemple. Voilà, donc ça, c'était un aperçu de la juste place des objets dans ma vie, la manière dont je l'ai définie personnellement. Et donc, l'exercice que je vous invite à faire ce mois-ci, c'est de vous poser la question, pour vous, quelle serait la juste place des objets dans votre vie, si vous voulez mener une vie plus simple et sereine dans le monde moderne ? Donc réfléchissez à vos propres valeurs, à votre style de vie aussi, à vos moyens financiers, au type de vie que vous menez, au type de logement que vous avez, etc. Et je vous invite à définir une juste place pour vous-même et pour vos objets. Pour terminer l'émission, je vous présente donc pour la ressource du jour le livre qui s'appelle « L'art de l'essentiel » par Dominique Laureau. Donc j'avais déjà parlé de cette autrice dans la toute première émission de Simplicité, l'émission numéro 1 sur le minimalisme, puisque je vous avais expliqué que c'était par son tout premier livre « L'art de la simplicité » que j'ai découvert la notion du minimalisme moderne. Et donc elle a publié beaucoup d'autres livres, hein, cette femme, depuis, et notamment un livre qui s'appelle « L'art de l'essentiel » où elle aborde justement cette idée de la valeur accordée aux objets, mais aussi au moment de la vie. C'est-à-dire qu'elle définit un petit peu ce que c'est l'essentiel. Et de la même manière que je vous invite à vous demander quelle est la juste place des objets dans votre vie, ben, ce livre peut-être peut vous aider à vous poser la question de quel est l'essentiel pour vous en fait. Comment définiriez-vous votre essentiel, qui est je pense aussi une question intéressante à se poser. Et puis comment profiter justement de l'essentiel dans sa vie. Voilà, donc si vous avez lu d'autres livres de Dominique Laureau, notamment l'art de la simplicité, vous risquez de retrouver des notions familières. Alors surtout qu'elle a écrit plusieurs années et qu'entre temps toutes ces notions de minimalisme etc. sont devenues assez populaires, donc vous risquez, si vous commencez à avoir consommé pas mal de contenu autour de tout ça, de trouver ça un petit peu familier peut-être. Mais en tout cas, si vous vous posez des questions autour de la simplification et autour de quelle place donner aux objets dans votre vie, je vous invite chaleureusement à découvrir ce livre. C'est tout pour aujourd'hui, merci infiniment d'avoir écouté l'émission jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et que vous y avez trouvé des idées intéressantes pour mener une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Vous retrouverez le récap des sujets abordés ainsi que les ressources mentionnées dans les notes de l'émission qui se trouvent, donc vous avez le lien dans les notes de l'émission si vous écoutez ça avec une app de podcast, et les notes se trouvent donc sur le site simple-cité.com, donc simple-du-6 cite.com/018 puisque c'est l'émission numéro 18. Si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous ou à laisser une note sur iTunes si le cœur vous en dit. Ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !